La dernière phrase, si je puis me permettre, Frédéric, je sais que vous avez toujours besoin de faire un long détour pour repasser par où on avait prévu de passer. Et la dernière phrase, je me sens, de Jean-Baptiste, c'était vous pouviez nous dire que, en tout cas, vous l'aviez formulé comme ça, que le magnéto-cassette vous avait sauvé la vie. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais en tout cas, ce dont je peux témoigner, c'est qu'on vous voit venir tous les jours sur la péniche là-d'amant, muni de votre magnéto-cassette. Et que jamais, au grand jamais, vous ne vous en séparez. Et que voire parfois même, on peut vous croiser dans la rue en train de jouer du magnéto-cassette.
Oui, c'est
n'est-ce pas, c'est exact. Dites-nous en plus, à quoi sert le magnéto-cassette pour vous?
C'est une machine à voyager dans le temps. Un chronoscope.
Vous savez ce que c'est qu'un chronoscope?
Non. Mais si, le piège diabolique. Ah, mon voyage mortifère. Le piège diabolique. Mais c'est pas le... Enfin, c'est un appareil qui permet de voyager dans le temps. C'est une machine spatio-temporelle.
Moi, j'ai un premier souvenir de vous. C'était la première fois que je faisais une randonnée. Et vous en étiez.
Oui, je m'en souviens, oui.
On était dans la forêt de Fontainebleau.
Fontainebleau, ouais.
On était avec les oiseaux, c'était plutôt silencieux, et tout à coup, en plein milieu de la forêt, retentit la voix de Louis Aragon.
Oui, je l'ai longtemps raconté cette soirée du 22 avril 1930. Nous venions d'échapper à la charge des gardes à cheval, et sur un banc de la nuit, nous vîmes venir vers nous ces frères dont nous étions depuis 13 années divisés. Un cri volait de lèvres en lèvres. Les socialistes. Et je compris à cet instant qu'un événement extraordinaire venait de se produire, qui pouvait changer la vie et tout l'avenir du monde. C'est une citation de Dieu.
Et que là, vous jouiez à ce moment-là avec votre magnéto-cassette.
Je ne jouais pas. Je ne jouais pas.
Vous aviez appuyé sur play.
J'avais appuyé sur oui. Donc, je jouais ma vie. À la forêt de Fontainebleau. Sur les chemins qui de la forêt. Non, le magnéto m'a sauvé la vie. Spécialement à cette époque. En 2011.
Si je me souviens bien.
Je pense que le magnéto m'a sauvé la vie, effectivement, cette journée-là. Parce que la voix d'Aragon, venue du fond des âges, me confortait dans l'idée que quelque part il y avait un avenir possible dans ce monde de fou. Des gens s'éloignaient de la grande ville en prenant les chemins de Fontainebleau. C'était une manière de prendre de la distance par rapport à la folie urbaine, urbanistique. Et j'avais un point de repère dans le temps qui était ce disque que j'avais trouvé chez Bouligny. Non, chez rue Saint-Paul, chez le Chineur, mon ami Laurent le Chineur. Un disque de mai 60. Non, je vais apprendre des sottises. De l'Union de la Gauche.
Oui.
Un disque en noir et blanc. Un vinyle extrêmement rare qui contient les voix des ténors de l'Union de la Gauche. Et il y avait la voix d'Aragon qui était le meilleur en fait. Les autres étaient un peu nuls, mais lui était excellent. Et la voix d'Aragon, venue des profondeurs du temps depuis l'année 71. Mes chers camarades, je ne puis être avec vous physiquement car un problème physique m'empêche de venir, mais je suis avec vous par le cul, mes chers camarades. Donc cette voix d'Aragon m'a sauvé la vie, probablement à cette époque-là.
Et j'ai souvenir aussi, parce qu'on se voit quasiment tous les jours, je le rends régulièrement chez vous aussi, vous avez pu raconter à plusieurs reprises que quand ça va pas bien, ça arrive, les relations avec le voisinage, ou alors les choses que nous avons entendues, et bien ce que vous faites, c'est de pouvoir c'est de jouer un disque ou une cassette ou quelque chose qui va tenir à distance les hostilités.
Le fait de, par exemple, de placer un morceau de Pink Floyd dans le mini cassette remet ma pendule à l'heure. Si je mets un morceau de Pink Floyd dans le magnéto, ma pendule barométrique se remet instantanément au bon endroit. Vous voulez qu'on essaye?
Écoutez, tout à l'heure, on s'est vu et on a fait un petit... Vous avez fait une petite sélection, en tout cas, de choses qui vous sont chères.
Bah, si, vous avez...
On va tenter l'opération. On va essayer. Il faut mettre le micro sur le...
Ouais,
pour que ça marche. Allez, j'essaie de faire.
Ça, les mondes collés, et que ça vous permettait, vous aviez expliqué comme ça, que ça vous permettait de venir coller des choses qui étaient disjointes, et que ça vous permettait un peu de retrouver un plan.
C'est une manière de recoller les morceaux de mon histoire, qui est très compliquée, parfois très fragmentée, et de ma personnalité, qui parfois va avoir dans le cœur. Donc l'histoire de fabriquer des gemmes, recoller des morceaux d'un diamant éclaté, le diamant des Pink Floyd, Crazy Diamond, le fait de recoller les morceaux d'une histoire éclatée, ça peut passer par la musique. Crazy Diamond, c'est l'histoire d'un personnage du monde de la pop musique qui a succombé à une maladie de schizophrénie galopante. Enfin, beaucoup de gens connaissent ou ne connaissent pas cette histoire, mais elle me concerne au plus près parce que j'ai eu dans ma propre famille un frère aîné qui a souffert des mêmes aventures que Syd Barrett. Donc c'est une manière de me guérir ou de me soigner moi-même en tout cas. Quand la folie me gâte du fait de mes pressions de la société ou de bruit, peu importe ce qui arrive, cette musique me sauve littéralement. Elle me ramène à une époque plutôt heureuse de mon histoire.
À ce sujet, en parlant d'époque heureuse ou de lieux, tout à l'heure, vous m'avez fait écouter un truc incroyable. C'était la voix de votre maman. Et la voix de votre maman dans un lieu qui vous est cher, parce que ça s'appelle Haute-Oreille. Ça ne s'invente pas pour quelqu'un qui écoute des trucs en permanence. Et vous aviez, je crois, mis de côté cette cassette.
Alors.
Oui.
Cette cassette que j'ai trouvée dans un tiroir de mon frère aîné, Alain, dont je parlais tout à l'heure, parmi d'autres cassettes poussiéreuses qu'il avait rangées, où il y avait des enregistrements de rock'n'roll, réalisés de manière tout à fait artisanale. Cette cassette.
Je ne sais pas si vous l'avez mise de côté, celle-ci.
Elle doit être ici, normalement. Oui, elle est toujours là. Bon. J'ai découvert par extraordinaire, au verso de cette cassette où il avait enregistré Route 66 et des morceaux de folk américain, de ses chansons à lui, folk américain, les Rolling Stones, au verso de la cassette, il y avait la voix de ma maman qui habitait effectivement. Un visage perdu de la Haute-Saône, qui à l'époque est un village assez isolé, enfin plutôt calme, petite bourgade tranquille, à 25 km de Besançon. Et elle a disparu en 2002. Elle avait un pacemaker, une machine qui fait. C'est pas une machine à crise cardiaque, mais une machine qui fait marcher le cœur. J'avais une Atom Heart Mother. J'avais une maman avec un cœur, non pas atomique, mais électrique. Et un chien de garde lui a sauté dessus et elle est morte en 2002. La machine s'est arrêtée. Son cœur s'est arrêté de battre. Elle a eu peur. Et cette histoire m'a donné beaucoup à réfléchir. Un peu plus tard, donc en 2008, dans les tiroirs de mon frère, j'ai retrouvé la voix de ma maman, qui est là.
Plate.
Voilà, je tente l'opération.
À l'administratif qui prendra la décision. J'ai oublié de demander à l'issue de mon coup de téléphone à quelle date cela se situe. J'aimerais bien qu'il prenne en compte votre qualité de juge. J'espère que vous ne souffrez pas trop par ce temps plus vieux. La ligne. Pour ma part, si je ne peux pas écrire aujourd'hui, c'est que j'ai fait une grosse chute le 5 février et j'ai le poignet plâtré pour 6 semaines à cause d'une fracture. Je n'en informe pas les habitants de Torreille. Je pense pourtant aller là-bas au mois de mars, voir les gentilles. Peut-être avez-vous de nouvelles informations de votre côté. Chère Mariette, je vous embrasse bien. Voulez-vous présenter mes amitiés à Gérard?
Pour recontextualiser les choses, peut-être, parce que ça fait faire un lien avec ce qu'on a raconté des gènes. En fait, votre maman, là, elle n'est pas en train de parler pour elle-même, mais elle est en train d'enregistrer pour une autre personne du village.
Oui, c'est ça. Elle a vu un accident en voulant changer une ampoule électrique. Elle s'était fracturée le poignet. Ça lui arrivait souvent. Elle était tombée de l'escabeau. Comme elle vivait seule à la campagne, toute seule dans sa maison de campagne, elle est tombée de l'escabeau, elle s'est brisée le poignet. Et elle a adressé un message, elle avait des papiers administratifs à remplir avec le notaire. Sa voisine devait l'aider, probablement, elle devait lui donner un coup de main, ou poster, alors vous voyez, mettre la lettre à la poste, ou un timbre, trouver un timbre, il fallait aller au bureau de poste, ou à la mairie du village pour avoir un timbre. Cet enregistrement, la trace de sa vie, son existence dans ce village où elle a vécu retirée pendant une bonne vingtaine d'années. Et voilà.
Et voilà.
Et voilà.
Et tout à l'heure, quand je suis passé vous voir pour savoir un peu comment ça allait, hein, si vous n'étiez pas trop stressé par cette intervention. Du coup, vous m'avez dit non, ça va, j'ai fait j'ai écrit un petit scénario un peu de ce que vous aviez envie de.
C'est une antisèche.
Et vous en êtes où
c'est de votre antisèche. C'est perfectionné. Je peux vous lire en deux mots ce que j'avais écrit.
Oui.
Je ne suis pas le centre du monde, entre parenthèses, rapport à l'autre. Je pense que ça devrait faire plaisir à Linda. Je ne suis pas le centre du monde. Qui sont les autres? Qui suis-je? Je lis leur antisèche en entier.
Comme vous voulez, vous pouvez vous arrêter de temps en temps.
Ça peut aider les auditeurs à comprendre. Numéro 2, c'était Besançon, 1972. Versailles, 1974. Rue du Temple, 76. Saint-Ouen, 82. Zurich, 90. Le CIM, école de jazz, 93. Troll Musique, à la station de Montreuil, 97. Troll Music, à Versailles. Et Adamant System, 2010-2020. C'est la période la plus longue.
Et en reparlant de Zurich, parce que c'est quelque chose que vous avez raconté à plusieurs reprises, c'est une première expérience que vous avez faite à Zurich.
Oui.
Vous êtes parti avec quelqu'un qui vous était cher à l'époque et qui l'est encore.
Oui, absolument.
Avec Jean Guérin.
Avec qui était chanteur de rock et qui avait fait l'IRCAM, qui est une école de... plutôt un laboratoire d'expérience musicale et radiophonique. L'IRCAM à l'époque de Jacques Lang. Jean Guérin, qui était un homme très cultivé, outre le fait qu'il était un chanteur de rock vêtu de cuir noir, il pouvait interpréter les grands morceaux de Jerry Lee Lewis ou de Elvis Presley, il était par ailleurs un intellectuel diplômé de l'IRCAM.
Et vous aviez enregistré une chanson avec lui.
Exactement, qui s'intitule Les célibataires. Si je retrouve la bonne cassette. Oui, nous sommes bien, sinon je ne la retrouve pas, nous sommes cuits. C'est un moment absolument dramatique. Je trouve la boîte, mais pas la cassette. Parce que la cassette, d'ailleurs, ce sont des choses qui... Là, voilà. Donc ça, c'est un moment décisif. Cette histoire. Dans le grenier de Jean Guérin, rue Mira, au métro Château-Rouge, à quelques encablures de Belleville, de Ménilmontant, dans le grenier laboratoire de Jean Guérin, dans son home studio, en 92, nous avons enregistré cette chanson.
tant que votre mallette.
Le trésor.
La malle ou voilà, une mallette de survie. Une
boîte de Pandore, comme vous voulez.
Une boîte de Pandore. Il y a aussi, monsieur.
La voix d'Altagor.
Il y a la voix d'Altagor. Exactement.
Parce que la boîte de Pandore, la malle au trésor, la voix d'Altagor. Oui, alors donc, cette histoire de célibataire, c'est juste une parenthèse pour dire que elle est née de mon expérience d'altérité, du voyage en Suisse alémanique, dans ce pays étrange situé au cœur de pas loin de la France, mais où les gens parlent une langue absolument extraordinaire, qui s'appelle le Schweizdeutsch. Je ne sais pas si vous avez essayé d'articuler. Et vous prononcez cette langue, mais moi j'avoue, j'ai échoué. Vous êtes Schweizdeutsch, de Suisse allemand. C'est un dialecte absolument formidable, mais pour moi impraticable. Enfin, j'ai essayé, même l'allemand, j'ai suivi des cours d'allemand à Zurich. J'étais travailleur immigré, on peut dire, en Suisse, pendant à peu près 6 mois. Et de cette expérience troublante, il est sorti cette chanson que j'ai interprétée à Zurich avec mon ami Jean Guérin dans un lieu associatif alternatif qui ressemblait étonnamment à l'endroit où nous sommes maintenant. Il y avait la route de fabrique, il y avait un autre lieu qui s'appelle la vieille école, Der Schule. Donc ça, c'est, et on a ramené cette chanson enregistrée avec Jean Guérin de ce voyage en train.
C'était une expérience d'altérité assez radicale, quand même.
Assez radicale, absolument. J'étais là-bas, notamment dans une période, dans une maison sur la colline qui ressemblait à San Francisco, avec des babacools extraordinaires, dont un qui s'appelait Philippe Arrigueur, et qui avait une petite valise remplie de groupes de rock extravagants, non mystérieux, qui lui tenait comme compagnie. C'était des gens extrêmement sympathiques. Donc je suis resté 6 mois dans cette maison sur la colline près de la forêt et j'ai rapporté de là-bas notamment 2 disques pirates, des Doors et des Pink Floyd, et aussi les Rainbirds, enfin, un groupe assez génial, avec une chanteuse qui s'appelait Katharina Franck. Et tout ça, je l'ai ramené dans ma valise à Paris en 93. C'était une parenthèse un peu longue.
Je ne sais plus pour dire où s'était ouverte la parenthèse.
À propos d'Altagor.
D'Altagor.
Et Altagor est un vieil artiste visionnaire et solitaire qui vivait dans un chalet de briques près de la Mutuelle des Cheminots à l'époque, en 91-92. Et c'était mon grand-père adoptif, un homme extraordinaire, vêtu d'une robe de chambre et qui ressemblait à Antonin Artaud, qui était mon grand-père d'Arbruit. Un homme fantastique. Et Altagor s'est éteint en 91, je crois. 91. Après une longue vie de pauvreté, d'incompréhension médiatique ou culturelle, enfin, il avait. Altagor s'est éteint dans son HLM. Et je suis allé dans sa chambre, dans son appartement, faire l'inventaire de ce qui restait de son entreprise artistique. C'était une expérience bouleversante parce que parmi les boîtes de conserve de petits pois et carottes empilées dans la cuisine, et dans la grande pièce, il y avait scotché sur les murs des affiches, des rares expositions auxquelles il avait participé dans sa vie, les rares liens qu'il avait avec le monde de l'art, notamment l'art abstrait dans les années 50. Et il y avait ses bouquins, ses bibliothèques, qui étaient un labyrinthe invraisemblable, où Bakounine côtoyait allègrement Chopin et Beethoven, enfin, un monde extravagant, où les théories mathématiques de savants dont on a même oublié le nom, et une anthologie de la poésie française, chez Marabout, où lui-même figurait dans un tout petit paragraphe de 5 lignes.
Et vous avez la voix d'Altagor sur une cassette.
Absolument. Donc, mon ami Altagor est toujours vivant, puisqu'il est là, sur une cassette. Le voilà. Je retrouve les cassettes que Altagor réalisait lui-même, avec un soin extrême. Et c'est une expérience absolument étonnante.
Oui, bonjour, avec la chevalerie, aristocratie, chevalerie. Ce que c'est parfois beau, une aristocratie, en effet. C'est dégénéré. Pour monter à Saint-Louis.
L'abstraction sous toutes ses formes, selon lui, le dépassement de la décadence. En fait, Althagore avait bricolé un système de pensée assez original qu'il appelait le transformel, qui reposait sur une équation mathématique. Et en deux mots, ça consistait à produire des modules modulables à l'infini, avec des paramètres très simples, soit graphiques, soit sonores, soit littéraires. Donc avec sa formule algébrique, il pouvait fabriquer un langage en pleine métamorphose perpétuelle. Il parlait lui-même de ce langage qu'il avait inventé. Thaïs, Talens, Nanasphi, Arpitalens, Althagore. Donc il avait inventé un langage, une métapoésie basée sur les racines gréco-latines, et le transformel, qui est une langue extravagante que personne ne parle ni ne comprend. Que peu de personnes parlent, peu de personnes entendent, mais le transformel, considéré comme une invention géniale, puisqu'il en était l'auteur, évidemment, pouvait s'appliquer à tous les domaines de l'expression plastique, sonore, musicale et littéraire. C'était ça l'invention géniale d'Althagore, qui n'intéressait, je dirais pas personne, mais pas grand monde à l'époque. Donc les lettres d'Althagore au ministère des Cultures, à l'époque de Jacquin, sont pathétiques, parce qu'elles révèlent une incompréhension mutuelle formidable entre le monde de la culture et notre ami André Vernier, dit Althagore. Une incompréhension pathétique, enfin bouleversante, du même style qu'on voit Antonin Artaud ou quelques autres. Et je suis heureux d'avoir connu ce vieillard impressionnant de gentillesse en ce qui me concerne. Il m'offrait des bonbons quand j'allais vendre des caramels, comme dans l'étoile mystérieuse, l'astronome. Aimez-vous les caramels? Il faut fêter dignement cet événement. Moi, Hippolyte, Calice, inventeur du Calistène. Vous connaissez Tintin? Dans l'étoile mystérieuse, un astronome formidable qui ressemble à Althagore. Je suis en train de demander si Althagore n'était pas la réincarnation de ce vieux bonhomme qu'on voit dans l'étoile mystérieuse. Enfin, c'est une parenthèse.
Mais c'est ça que moi je trouve saisissant souvent dans ce que vous racontez, c'est que ces personnes qui sont disparues ne cessent de se réincarner en permanence.
Oui. Totalement vrai. Totalement vrai. Alors, c'est très compliqué cette histoire de réincarnation. Mais vous mettez le doigt sur un problème capital.
C'est un problème qui
peut en rester là. C'est le problème. Hein. Il y a quelque chose, même dans ce que vous dites, d'une phrase formelle, c'est-à-dire il y a aussi, vous, dans ce que vous faites avec les cassettes, avec vos peintures, vos bandes dessinées, tous les collages, tous les textes que vous produisez,
oui. Il
y a quelque chose comme ça, d'une espèce de... Une langue qui est compréhensible.
Une métapsychose, vous voulez dire ?
Je ne sais pas, j'ai peut-être...
Je sais pas, c'est un mot un peu compliqué. Enfin, une réitération de quelque chose qui a déjà eu lieu.
Mais moi, j'entends chez vous, je vois, j'entends souvent une modulation à l'infini d'une même chose.
Oui, c'est vrai.
C'est dans différentes figures, différentes voix.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je vais tout vous avouer. Réellement, j'ai mis en pratique la théorie de l'Altago. Oui. Donc, j'ai fait des modules sur du papier A4. Quand on achetait à Monoprix du papier de couleur et des boîtes de cassettes remplies dans des boîtes de Kleenex, j'ai appliqué méthodiquement la méthode d'Altago. Donc je suis un peu l'héritier de ce vieillard scénique, ni vieillard arsenique, mais enfin vieillard troublant et émouvant à la fois. Il lui arrive aussi de dire des bêtises, comme tous les grands génies, quoi, de se planter, de se remettre. Phénoménal, mais enfin il était quand même quelqu'un d'exceptionnel. Donc j'ai retenu la leçon de Altagor, c'est-à-dire face à toutes les misères du monde, son vieux peignoir de bain, il avait subi une opération de la prostate qui l'avait laissé handicapé pour toute sa vie. Donc quand il parlait des médecins des hôpitaux publics, il disait les carabins, ils ne comprennent pas qui est Altagor. Il parlait de lui à la troisième personne, les carabins qui m'ont charcuté dans leur chirurgien, les carabins, ils ne comprennent pas la poésie d'Altagor. Donc il avait beaucoup souffert dans son existence, d'une maladie incurable, un truc de la prostate. Il a été handicapé pour toute sa vie. Donc il y a un lien très étroit entre la création et les maladies, les maux divers, psychologiques ou cérébrales, tout ce qu'on veut, un problème familial. Donc, pour revenir à votre question.
Avant de conclure, voilà, parce que je suis désolé, on a promis qu'on rendrait, mais pour conclure.
Pile poil. Souvent à la radio, parce qu'on fait l'atelier radio ensemble le lundi, depuis pas mal de temps, oui. Souvent c'est vous qui vous occupez des génériques. Alors des génériques qui arrivent parfois au milieu de l'atelier, parfois à la fin, parfois au début. Est-ce que vous auriez un générique pour conclure notre petite intervention ?
Là j'ai quelque chose d'assez intéressant. Nous avons un générique de fin. This is the end of my beautiful friend. C'est déjà ça va si vite que ça.
Ça passe très très vite. Ça passe très très vite.
Vous accélérez le temps. Alors.
C'est pas méthode, moi, je suis pas le maître du temps.
Les particules élémentaires, ça va, et c'est étonnant. Alors, le temps, ça s'accélère. Effectivement, j'ai ici une cassette de l'année 92 qui est l'enregistrement d'une émission. De radio, pas de télévision, où nous étions avec Jean Guérin et le groupe Tribune dans les studios de France Inter. Je ne dis pas une bêtise.
Oui, je dis peut-être une bêtise. J'avais espéré, parce qu'on avait discuté avant, mais vous n'avez pas retrouvé la cassette, parce que je vais faire bref. Hein. Dans tout ce travail de recomposition,
oui.
De revisitation,
oui.
De redonner vie à des personnes disparues,
oui.
De leur faire emprunter,
oui.
D'autres chemins,
oui, tout à fait.
Vous faites souvent des reprises,
oui.
Des covers,
énormément
aujourd'hui.
Oui.
Hein, vous sillonnez les disquaires, vous achetez toutes sortes
c'est
de
musiques. C'est du repétissage, du raccommodage biographique. En plus. Oui. Je raccommode les morceaux de mon histoire déchirés, éclatés, morcelés. C'est du repétissage artisanal. De biographie familiale ou de biographie, d'éléments culturels dont j'avais fait des coutures extrêmement précises, pas Charles Lely, mais des coutures très précises sur des moments de mon histoire qui étaient fracturés. Et les cassettes ont joué un rôle réparateur.
Oui. Et on aurait pu écouter, mais ce ne sera pas le cas, et après je m'arrête et on écoute le morceau et on rend l'antenne.
Oui.
Vous aviez acheté le vinyle, la bande originale. Du téléfilm L'Homme du Picardie. C'était donc vous jouiez L'Homme du Picardie et par-dessus L'Homme du Picardie, vous interprétiez un texte de Michel Houellebecq que vous avez bien connu.
Non, c'est pas ça. C'est pas exactement ça. J'ai écrit une chanson pour mon copain Michel Houellebecq, qui est écrivain de profession, que je n'ai pas revu depuis 20-28 ans. Et Michel et moi Nous étions ensemble à Zurich en 90. Donc nous avons un lien, au-delà de l'espace et du temps, un lien d'amitié qui perdure. Mais mon copain Michel Houellebecq, ne pouvant le voir in visu dans la vraie vie, j'ai écrit une chanson pour lui, enfin, en lisant le journal sur la demande, le monde du livre, je ne sais quoi. J'ai vu sa photo, j'ai lu l'article, et ça m'a inspiré une chanson. Comme je n'avais pas de musique établie pour. Je l'ai enregistré sur une musique de film télé qu'on regardait avec mes parents en 68. Ça s'appelait L'homme du Picardie, l'histoire d'un marinier. Non, c'est l'homme du Picardie. C'est une péniche, l'histoire d'une péniche, une famille qui est en quignol qui vivait sur une péniche.
Il faut qu'on rende l'antenne. Alors, vous savez comment il y a
l'ORTF. Je suis désolé, mais les concerts qui vont commencer en bas, je sais aussi.
Je lance le générique.
On pourrait jouer au dé très longtemps avec les cassettes.
La fin, je mets les trois dernières minutes de l'émission, ça vous va.
Allons-y.
Et l'émission de
la parole, on donnera un temps à DJ Carly.
Il n'y a pas de noir, de blanc, il n'y a pas d'accord après. À la lumière, pas d'ailleurs.
Merci beaucoup Frédéric, merci à vous.